Chapitre 10. Le drame en taxi. Rick rentra vers 11 heures, absolument certain que c'était bien Matignon qu'il avait vu sur l'écran. Son costume était celui des soldats prisonniers et non des civils. Quand il apprit de son cousin la tentative de cambriolage et l'effraction du bureau, sa consternation fut grande. Cette fois, il n'y avait plus à rire, il n'y avait plus à s'imaginer qu'on jouait avec Matignon comme le chat joue avec la souris. C'était bel et bien Matignon qui était le chat. Sournois, furtif et cruel, il avait tenu un instant Pierre sous sa griffe. « Pas de ça !» s'écria Rick. « Tu vas prévenir M. Gavenard. Il mettra Matignon à la porte. »« Ça ne nous avancerait pas beaucoup. Matignon ne lâchera pas le morceau. Il lui faut le plan de mon dispositif, soit pour le vendre à une maison concurrente, s'il est français comme il dit, et une simple canaille, soit pour l'envoyer à l'aviation allemande, s'il est boche, comme je le pense. Nos ennemis ont tout intérêt, comme nous, à accélérer la production des magnétos. Si Matignon reste à l'usine, nous savons au moins où le prendre. S'il disparaît, c'est le danger aux quatre coins de l'horizon. Non, vois-tu, Rick, je ne dirai rien encore à M. Gavenard. Mais qu'est-ce que nous ferons? Nous narguerons le bonhomme. Le nez qu'il aura fait en trouvant dans le portefeuille des dessins de l'école et rien d'autre. C'est égal, poursuivit Pierre avec quelque amertume, quand je pense qu'il était là, à deux pas de moi, et qu'il a pu s'échapper. Je dis comme mon camarade de Saint-Amé, être aveugle, c'est plutôt incommode. Le lendemain, Rick et Pierre, en quittant l'usine le soir, s'arrangèrent à croiser Matignon sur la grande porte où chacun était obligé de passer. « Mauvaise chasse, Matignon !» fit Pierre, que son cousin avertit par une légère pression du bras. « Nous serons bien aises que vous nous rendiez le portefeuille, mais vous pouvez garder les papiers s'ils vous intéressent. »« Ma parole !» fit Matignon par-dessus son épaule et parlant pour un ouvrier qui sortait avec lui. « Ma parole, si je ne crois que cet aveugle a eu le cerveau dérangé par la même balle qui lui a crevé les yeux !» Pierre serra les lèvres. Cette lourde ironie lui fit hausser les épaules. Mais Rick, indigné, s'écria « Pour vous, il y aura bien 12 balles et un poteau à Vincennes, monsieur soi-disant Matignon. » « Le petit est aussi fou que l'autre, » grommela le contremaître en se hâtant de passer dans la rue. « Tu n'aurais pas dû lui parler du poteau d'exécution, » fit Pierre tout en marchant au bras de son jeune guide. « À présent, ce sera la guerre au couteau. » « Matignon sait qu'il joue sa peau. Il lui faut mon invention. Quand il l'aura, il disparaîtra. Si, du moins, j'avais mon brevet, on commencerait la fabrication. On la mènerait grand train. Même si les Allemands imitaient ensuite mon dispositif, nous aurions une grande avance. Mais sans brevet, autant jeter mon idée sur la place publique. Si Matignon bouge encore un doigt, alors oui, j'avertirai M. Gavenard. » Les jours passèrent, M. Martin écrivit que les dernières formalités pour l'enregistrement étaient commencées. « Qui sait, écrivait-il, si le brevet ne vous sera pas remis pour vos étrennes, mon cher Pierre? Et qui sait si je ne vous l'apporterai pas moi-même? Mais votre futur beau-père, pour être sûr d'un bon accueil, se fera peut-être accompagner d'une autre personne plus chère et qui brûle du désir de voir Paris. Lucette, Lucette à Paris pour Noël !» Rick crut que son cousin en prenait la fièvre. Tantôt parlant avec exubérance et faisant 1000 projets, tantôt silencieux pendant des heures, Pierre se mit à compter les jours et son ardeur au travail pour mettre à point ses ébauches d'idées provoqua même les protestations d'Étienne le matin et de Rick l'après-midi, qui ne voyaient ni l'un ni l'autre la nécessité de cette allure. La claire lumière de l'espoir illuminait les jours et l'inquiétante figure de Matignon se renfonçait dans son coin d'ombre duquel Pierre et Rick détournaient leurs pensées trop négligentes. Cependant, ils en causaient entre eux de temps en temps. « Tu as bien soin de ne rien dire de Matignon dans tes lettres chez toi, n'est-ce pas mon poteau ?» recommandait Pierre. « Si Lucette en entendait un mot, elle s'affolerait. » « Non, non, sois tranquille, » dit Rick. « J'écris ça dans mon journal, » tous les épisodes l'un après l'autre. Papa et maman liront l'histoire quand elle sera finie. Comment finira-t-elle? C'est drôle d'écrire une histoire quand, d'un chapitre à l'autre, on se demande soi-même ce qui va arriver. Comment crois-tu, toi, que ça finira? Mal pour Matignon, on aura Matignon. Ce n'est pas lui qui nous aura plus tôt. Penses-tu, il lui faut trop de choses à ce glouton-là. Il lui faut tous mes papiers, car d'après ces remarques dont Courtois m'a fait part, il est sur la piste de mon moteur sans explosion. Et il lui faut deux hommes bâillonnés, car à l'instant où nous le dénoncerons, c'est le poteau sans phrase. Nous bâillonner ? Excusez du peu, s'écria Rick. Nous réduire au silence d'une façon ou de l'autre. Alors, tu vois ses chances. Nous sommes sur nos gardes, nous tenons le couteau par le manche, Matignon finira par comprendre que sa position est trop dangereuse et il disparaîtra sans que M. Gavenard ni M. Martin n'aient les ennuis et les soupçons d'une enquête. Personnellement, j'y ai intérêt aussi. Supposons l'usine suspecte, le travail arrêté, au moment même où tout l'outillage va être prêt pour ma magnéto. Ce serait le désastre. Alors, tu prédis que ça finira comme ça, que Matignon s'en ira en fumée ? C'est ainsi que le diable a coutume de disparaître, dit Pierre en riant. Toutes les phrases de cet entretien revinrent à leur mémoire quelques heures plus tard, et surtout la brève formule par laquelle Pierre avait résumé le programme de son ennemi. « Tous mes papiers entre ses mains, toi et moi bâillonnés. » Une audace formidable, conseillée par l'astuce la plus perfide, était déjà embusquée, n'attendant plus que la minute favorable pour exécuter ses plans. Pierre était seul avec Rick dans son bureau du pavillon. 3 heures allaient sonner. Le téléphone appela. « Allô ?» fit Pierre. « Oui, je suis Roya. » « Un malheur vient d'arriver à votre ami Courtois, » prononça dans le cornet une voix lente, distincte. « Oui, accident grave. Courtois veut vous voir, il est à l'hôpital Saint-Antoine. Urgent, dans 1 heure, il aura peut-être cessé de vivre. Je vous ai envoyé un taxi. Dans votre quartier, vous auriez de la peine à en trouver à 7 heure. Le taxi est parti il y a 6 minutes. » Il doit être à la porte de votre usine en cet instant. Ne perdez pas une seconde. Avez-vous quelqu'un pour vous accompagner ? Oui, j'ai quelqu'un, je pars. Se tournant vers Rick, Pierre lui répéta brièvement le message qu'il venait de recevoir. Ils prirent leur béret, sortirent du pavillon et traversèrent la cour précipitamment. Le concierge leur ouvrit la grande porte, derrière laquelle, en effet, un taxi très bien tenu attendait. Près de la portière, un homme en blouse blanche d'infirmier et portant le brassard de la Croix-Rouge s'avança pour aider Pierre à monter. « Il n'y a pas de temps à perdre, dit-il. Votre ami est bien mal. »« Hôpital Saint-Antoine, fit-il s'adressant au chauffeur. » Il insista poliment pour que Rick s'assît à côté de Pierre. Il se plaça en face d'eux. Un petit sac de cuir noir était près de sa main sur la banquette. Les stores des deux côtés étaient baissés. Il faisait assez sombre dans la voiture. Rick, qui aurait voulu voir dans la rue, essaya de soulever le store qui semblait accroché. Le taxi marchait très vite, au maximum probablement. Tandis que Rick s'affairait avec le store récalcitrant, l'infirmier avait entrouvert son petit sac et manipulé quelque chose dans l'intérieur. Il déboucha un flacon qui grinça légèrement. De l'autre main, il pressait la poire de caoutchouc qui avertissait le chauffeur. Le taxi s'arrêta net. En moins de 10 secondes, la portière s'ouvrait, le chauffeur escaladait la marche, saisissait Rick à la gorge. L'infirmier renversait Pierre sur les coussins et lui enfouissait le nez et la bouche dans un énorme tampon d'oie imbibé de chloroforme, et le chauffeur, plongeant sa main libre dans le sac, en tirait un second tampon qu'il appliquait sur la figure de Rick, déjà demi-suffoqué. Ce fut pour l'un et pour l'autre comme la fin du monde, comme un gouffre de ténèbres où ils s'enfoncèrent sans un cri. « Ganznet !» dit le chauffeur avec un gros rire. L'infirmier enlevait sa blouse et son brassard, les roulait, les fourrait dans son sac. « Fui, c'est de la ponne ou frache » fit-il d'un air satisfait. « À présent, les boches !» Il voulait dire « les poches !» car il fouilla soigneusement ses deux victimes et leur enleva tout le contenu de leurs poches et de leurs goussets, clés, porte-monnaie, calepins, qui, à leur tour, s'engouffrèrent dans le sac noir. Le chauffeur était remonté sur son siège et le taxi marchait maintenant à l'allure permise. Place de la Nation, il stoppa. Un passant le hélait près de l'arrêt des tramways. Il s'approcha, ouvrit la portière, malgré les gestes de dénégation du chauffeur qui montrait son petit drapeau. Le sac noir passa de l'intérieur du taxi dans les mains de l'indiscret, qui avait eu un mauvais rire en voyant deux formes immobiles, prostrées, affalées l'une contre l'autre sur la banquette du fond. Il échangea quelques mots avec le pseudo-infirmier, qu'il appela « Herr Doktor », et pendant ce temps, le chauffeur, pour jouer son rôle, égrenait un répertoire d'injures contre l'empoté, le mufle, qui l'empêchait de rouler. « Tu vois donc pas que je suis chargé ? Hé, gourde, va donc !» vociférait-il avec un accent à peu près authentique. L'homme referma la portière, répondit d'un air ennuyé qu'il n'avait pas vu le drapeau, puis monta dans le tram prêt à partir. Toute la petite scène fut fort bien jouée, ce n'était que l'incident insignifiant et fréquent d'un monsieur pressé qui cherche à monter second dans un taxi déjà occupé. Le seul petit détail suspect était la barbe énorme du monsieur, une barbe de sapeur ou d'auvergnat, une barbe qui lui montait quasi jusqu'aux yeux. Une végétation comme on n'en voit vraiment plus à Paris. Mais la cicatrice de Matignon était bien au chaud là-dessous. Trois quarts d'heure plus tard, la même barbe, mais accompagnée cette fois d'une casquette et d'un bourgeron d'ouvrier, se présentait au regard de Madame Amande. « Je viens de la part de Monsieur Pierre Royat. Voici sa carte où son jeune guide a écrit deux mots. J'ai les clés de son bureau pour lui apporter quelques papiers dont il a besoin immédiatement. » Madame Amande lut au dos de la carte ces mots tracés au crayon. « Prière de permettre au porteur d'entrer dans notre chambre et d'ouvrir le bureau avec les clés que nous lui avons remises. Frédéric pour son cousin Pierre Royat. » « Entrez, entrez !» dit Madame Amande. « C'est pressant ?»« Assez. Il y a au bureau un Américain à qui M. Royat fait voir des projets de mécanique avec son cousin pour lui aider, puisqu'il est aveugle, le pauvre diable. »« Ça m'explique que le petit ne soit pas venu lui-même, » songea Madame Amande. « Vous êtes sûr de trouver ce qu'il vous faut ?»« Ce n'est que trois ou quatre dessins qui leur manquent. Je mettrai la main dessus en un instant. » répondit Matignon, lequel, dans sa première exploration, avait bien soupçonné un panneau secret derrière les tiroirs, mais n'avait pas eu le temps d'y arriver. Au bout de quelques minutes, en effet, le précieux rouleau était en sa possession et pouvait rejoindre sous une petite trappe ingénieuse, dans un coin du garage, les autres papiers abandonnés précipitamment sur la table du bureau au pavillon par Pierre-Éric, qui n'avait pas pris une minute pour les serrer après le message téléphonique de l'hôpital. Ah, ce message! Qui donc aurait soupçonné qu'il partait de la même officine, d'un appareil à fil souterrain branché sur le fil de l'usine et qui permettait à Matignon de recueillir une foule de communications souvent intéressantes, de lancer également des appels dont la source restait cachée. S'étant assuré, vers 3 heures, que Pierre-Éric était seul au bureau, il avait d'abord téléphoné chez le liquoriste du coin, le mot convenu avec son complice pour que le taxi se trouvât à la porte, puis il avait lancé sa nouvelle alarmante et par un châssis du garage, le chat avait regardé d'un œil ironique et dur les deux souris courir vers la trappe infaillible qui allait les happer. Ensuite, se diriger vers le pavillon vide et rafler tout ce qui se trouvait sur la table avait été l'affaire de 3 minutes. Matignon, en général très assidu à tous ses devoirs de contremaître, jouissait d'une grande liberté de mouvement, car il devait souvent se rendre à divers entrepôts pour accélérer la livraison des matières premières indispensables. Donc, 5 minutes après la sortie de Pierre, Matignon sortait à son tour sans précipitation, entrait dans un café dont le garçon, seul dans la salle, lui faisait un signe, passait dans une arrière-salle et en sortait, camouflé dans sa barbe de fleuve. Il courait au métro et en sortait place de la Nation, juste à temps pour héler le sinistre taxi, d'où s'exhalait, si l'on y avait pris garde, une forte odeur de chloroforme. Dès que le sac, avec les clés et le petit portefeuille de poche appartenant à Pierre, fut en sa possession, le programme était rempli. Dans le portefeuille, outre une photographie de Lucette, car Pierre, comme tous ses camarades aveugles, portait toujours sur lui de chers portraits, il se trouva des cartes de visite. Bien commodes pour écrire un billet et inspirer une parfaite confiance chez Madame Amande, où l'homme à la grosse barbe se rendit sans perdre une seconde, dès que le tramway le déposa, porte de Clignancourt. Comme tout cela était bien agencé et digne vraiment du génie organisateur, que la Providence n'a pas départi, assure-t-on, à toutes les nations. Vers 6 heures, comme Madame Amande s'occupait à préparer son dîner, on lui apporta un petit bleu qu'elle ouvrit avec alarme, car elle ne recevait pas souvent des messages pneumatiques. « Chère Madame, ne nous attendez pas pour le dîner. Mon camarade Courtois est mourant à l'hôpital Saint-Antoine. Il se peut que nous passions la nuit auprès de lui, Ric et moi. Mais s'il était mieux demain matin, nous l'accompagnerions peut-être en auto de la Croix-Rouge chez sa mère. » Donc il se peut que nous ne rentrions pas demain. Bonne salutation de Pierre et de Ric. Madame Amande resta rêveuse après avoir lu ces lignes. Drôle d'idée, pensa-t-elle, de conduire un mourant chez sa mère. Il serait plus indiqué d'appeler la mère à l'hôpital. Maintenant, faut-il que je fasse prévenir l'usine ? Mais non, puisque c'est probablement à l'usine que M. Royat a appris que son camarade Courtois était mourant. « Monsieur Gavenard aura été informé tout de suite. Enfin, nous verrons ça demain matin. Et je retire mon pot-au-feu. Je n'en ai pas besoin pour moi seule. » Ce fut toute la conclusion que Madame Amande tira du petit bleu.